Europe 1. Bonjour, je suis Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Dans le cadre de l'exposition « La forêt magique », présentée au Palais des Beaux-Arts de Lille jusqu'au 19 septembre, je vous propose un épisode spécial sur Merlin l'Enchanteur. Indissociable de la forêt de Brocéliande, le personnage de Merlin est à mi-chemin entre l'histoire et la légende. Depuis l'arbre qui lui sert de refuge, il met son pouvoir de magicien au service d'une cause historiquement très concrète, l'unification du royaume de Bretagne. C'est bien sûr Walt Disney qui, au XXe siècle, a popularisé le personnage de Merlin en faisant de lui, dans un dessin animé portant son nom, le sorcier bienveillant qui veille sur le jeune Arthur, futur roi d'Angleterre et seigneur des chevaliers de la Table Ronde. Mais l'histoire de Merlin remonte bien plus loin que le Moyen-Âge. Bien des pays et des époques l'ont revisité. Cependant, toutes les versions de cette histoire ont un point commun. La forêt. Merlin est le mage de la forêt qui est à la fois sa prison et son domaine. Suivez-moi en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, entre chênes séculaires et pommiers magiques. Du pays de Galles à la Bretagne. L'an 1000 a apporté son lot de catastrophes. Jamais de mémoire d'homme hiver ne fut plus froid. Debout, dans le vent glacial, un vieil homme tente vainement de lever sa hache pour couper du bois. Épuisé, il tombe à genoux, fond en larmes. Sans bois, comment se réchauffer, cuire sa pauvre soupe? Soudain, depuis les arbres voisins, une voix lui chuchote.
« Je suis Merlin, prophète et devin. J'ai eu pitié de toi. Je te rendrai riche pour toujours si, dans la fortune, tu te soucies des miséreux. »
Hélas, une fois devenu riche, le vieil homme a tôt fait d'ignorer ses prochains. Alors, un beau jour de printemps, Merlin réapparaît et, par un sortilège, renvoie cet ingrat à son ancienne condition. Mi-ange, mi-homme, Merlin est capable de compassion comme de colère. Les légendes qui courent à son sujet sont innombrables, mais ont en commun certains traits propres au célèbre magicien. Certaines lui attribuent des dons de métamorphose, certaines des dons de prophétie. Mais dans toutes ces légendes, son domaine, son repère, c'est la forêt. Dépositaire d'un savoir abyssal, le vieux sage y commande aux animaux. C'est dans la forêt de Brocéliande, avec ses arbres magiques et ses fontaines ensorcelées, que sont nés les récits les plus palpitants de la vie du magicien et des prodiges qu'il a accomplis. Dans la tradition orale galloise, Merlin est né de la fusion entre un personnage légendaire et un personnage historique. Un certain chef de clan nommé Myrdin, qui, devenu fou après une grande bataille, va vivre en ermite dans les forêts calédoniennes. En France, Merlin fait son apparition au tout début du XIIe siècle dans des contes et légendes rapportés d'Angleterre. C'est un compagnon de Guillaume le Conquérant, Raoul Ier, seigneur de Gaël, mort en 1099, qui, de retour d'outre-Manche, rapporte avec lui des récits merveilleux. Son fils est Raoul II, comte de Fougères, connu pour son conflit avec le roi d'Angleterre Henri II Plantagenet, père du fameux Richard Cœur de Lion. Son lien avec Merlin est indirect, mais déterminant, puisque c'est lui qui transpose l'histoire de l'Enchanteur d'Angleterre en Bretagne, et plus précisément dans la forêt de Pimpon, qui ne prendra qu'au XIXe siècle le nom de forêt de Brocéliande. Merlin devient un personnage essentiel de la littérature et de l'imaginaire médiéval. Et dès la fin du XIe siècle, la noblesse française se presse pour visiter les terres du seigneur de Gaël, dans l'espoir secret de croiser, au détour d'un chêne, l'ombre de Merlin. « Par son origine et ses dons, Merlin est très tôt assimilé à la forêt. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce que dans son apparence même, la France médiévale n'est alors qu'une longue suite d'immenses et épaisses forêts impénétrables que l'imaginaire chrétien associe au mystère, qu'il soit bienfaisant ou néfaste. Dans les premiers récits sur Merlin, la forêt apparaît de manière assez imprécise, puis avec le temps, au fil des récits, elle se révèle comme la représentation d'un autre monde. Elle incarne l'inconnu, le lieu où toutes sortes de prodiges peuvent se produire. Elle devient un lieu d'aventure, de refuge, d'enseignement. Merlin, sorte de druide divin ou de chaman, y apparaît sous forme humaine ou animale. Son aspect le plus courant est celui d'un oiseau. Le nom même de Merlin est d'ailleurs proche du mot « merle », volatile dont Merlin tient le caractère persifleur et provocateur. Dans l'imaginaire celtique, le merle est associé à l'au-delà. Lorsqu'il prend l'apparence d'un cerf, Merlin est capable de survoler les bois. Mâche facétieux, il peut aussi apparaître sous la forme d'un enfant ou d'un vieillard. De l'apparence physique de Merlin n'existe qu'une seule description, tirée d'une chronique médiévale.
Il avait la tête grosse comme celle d'un veau, les yeux ronds et saillants, la bouche fendue jusqu'aux oreilles, les lèvres épaisses, toujours entr'ouvertes, qui laissaient passer ses dents, les pieds retournés à l'envers, les cheveux noirs, durs et si longs qu'ils tombaient sur sa ceinture. Il était grand, courbé, velu et vieux à merveille, vêtu d'une peau de loup. Et ses oreilles pendaient jusqu'à ses genoux de manière qu'il pouvait s'en envelopper lorsqu'il pleuvait. Enfin, il était si laid à regarder qu'il n'était homme vivant qui n'en dût avoir grande peur. Il avançait en frappant les chaînes à grands coups de sa massue, et il menait avec lui, comme un berger son troupeau, une horde de cerfs, de biches, de daims et de toute manière de bêtes rousses.
Un épisode particulier va bouleverser le destin de Merlin et frapper l'imagination populaire, sa rencontre avec la fameuse fée Viviane. C'est de cette rencontre que naît son lien intime avec la forêt. Viviane, que l'on appelle également la Dame du Lac, vit dans la forêt bretonne de Brocéliande. Elle y élève au fond d'un lac un jeune homme parfait en tout point nommé Lancelot. Lorsqu'il la rencontre pour la première fois, Merlin est subjugué. Il en tombe immédiatement amoureux, si amoureux qu'il accepte de lui livrer tous ses secrets. Viviane se livre elle aussi tout entière. Mais pour ne pas risquer de perdre ce magicien si prompt à disparaître, elle l'emprisonne dans la forêt pour l'éternité. Merlin sait que cette relation intime aux arbres inquiète et même effraie. Les Romains disent des druides
qu'ils habitent dans des bois profonds et se retirent dans des forêts inhabitées. Ils y pratiquent des rites barbares et une sorte de culte sinistre.
Comme ses ancêtres des premiers temps de la Gaule romaine, Merlin ne construit pas de temple. La forêt est son sanctuaire. Il connaît l'usage de chaque essence de bois, selon la tradition celtique. La branche de l'if sert à faire les baguettes magiques. Au pied des sorbiers, il pratique les sortilèges dont il a le secret. Lorsqu'il veut disparaître aux yeux des hommes, il monte sur le pommier enchanté qui est son lieu de vie habituel. Il peut aussi transformer les arbres en pierre. Mais tout cela, évidemment, appartient à la légende. Qu'en est-il du Merlin historique, si vraiment il a existé? Son nom apparaît pour la première fois dans l'histoire lors de la bataille d'Arderide en 576, bataille entre différentes factions des Bretons du Nord. C'est à l'occasion de cette bataille que Merlin devient fou. Il voit le ciel s'entr'ouvrir et des fantômes se précipiter sur lui. Il court alors se réfugier dans la forêt de Calydon. Après quoi, Il réapparaît d'un récit à l'autre, parfois sous d'autres noms, Lailoken, Lailogan, Myrdine ou encore Ambroise. Un moine nommé Jocelyn le décrit dans un texte comme un personnage énigmatique vivant dans la forêt et passant son temps à prophétiser. Étonnante figure donc que ce Merlin, en qui le mythe et la réalité sont inextricablement liés. Dans la forêt de Brocéliande, l'artiste François Davin a créé un arbre d'or en 1991. Cet arbre, par sa forme, évoque des bois de serre et rappelle au souvenir de Merlin. Mais il est aussi situé au cœur du Val sans retour, partie de la forêt où, comme par enchantement, les boussoles sont incapables d'indiquer le nord. Phénomène dû aux caractéristiques géographiques du lieu ou à la magie de Merlin. Les deux explications ont leur champion. La journée, les promeneurs viennent regarder cet arbre en touristes, tandis que la nuit, de petits groupes de druides en herbe continuent de perpétuer, lors de cultes secrets, la mémoire de Merlin et de sa forêt magique. Ainsi s'achèvent, comme par magie, nos deux histoires consacrées à la forêt dans le cadre de l'exposition « La forêt magique » présentée au Palais des Beaux-Arts de Lille jusqu'au 19 septembre prochain. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. Les deux histoires que vous venez d'entendre ont été écrites en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Christophe Daviau. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie ayant servi à écrire ces histoires vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.